Chapitre 27. L'écran du réveil affiche 2h47 quand je me rends compte que la fille est de nouveau là. Je grave dans ma mémoire ces chiffres. Elle est venue un peu plus tôt qu'hier. Mais cette fois, je suis resté réveillé pour l'attendre. Je n'ai pas fermé les yeux une seule fois, ou tout juste pour cligner les paupières. Pourtant, je n'ai pas vu l'instant précis où elle a fait son apparition. Tout à coup, je me suis rendu compte qu'elle était là. C'est tout. Elle porte la même robe bleue, est assise dans le même fauteuil, dans la même position, les yeux fixés sur le tableau de Kafka au bord de la mer, accroché au mur. Et moi, je la regarde en retenant mon souffle. Le tableau, la jeune fille et moi, formons un triangle silencieux dans la chambre. Elle ne se lasse pas de contempler la peinture, et moi, je ne me lasse pas de la contempler, elle. Le triangle est parfaitement fixe. Il ne bouge pas d'un iota. Quand soudain, il se produit une chose totalement inattendue. Je m'entends l'appeler. Mademoiselle Saiki ? Je n'avais pas du tout l'intention de prononcer son nom. Mais la pensée s'est frayée un chemin dans mon esprit et s'est transformée en son, à mon insu. J'ai parlé à voix très basse, mais elle m'a entendu. Un des côtés du triangle s'effondre. C'est peut-être ce que j'espérais secrètement. Je ne sais pas. Elle regarde dans ma direction, mais pas comme si elle essayait de percer les ténèbres. Elle tourne simplement son visage vers moi, calmement, en gardant sa joue dans sa main. Comme si elle avait senti une très légère vibration dans l'air. J'ignore si elle peut me voir, mais je souhaite de tout mon cœur qu'elle me remarque. Je veux qu'elle sache que j'existe. Je répète son nom. Mademoiselle Saiki ? Je ne peux pas m'empêcher de le prononcer. Peut-être qu'effrayée par le son de ma voix, elle va s'en aller et ne plus jamais revenir. Dans ce cas, je serais affreusement déçu. Ou plutôt non, pas déçu, totalement désespéré. J'aurais perdu quelque chose qui représente tout pour moi. Pourtant, je ne peux pas m'empêcher de prononcer son nom. Ma langue, mes lèvres se meuvent indépendamment de ma volonté et répètent encore et encore, presque automatiquement, son nom. Maintenant, ce n'est plus le tableau qu'elle regarde, mais moi. Ou du moins, je fais partie de son champ de vision. De là où je suis, je ne distingue pas son expression. Au dehors, les nuages se déplacent dans le ciel et leurs mouvements font vaciller la lumière de la lune. Il doit y avoir du vent, mais je ne l'entends pas. Poussé par une force implacable qui me dépasse, j'appelle à nouveau « Mademoiselle Saiki ?» Elle enlève la main droite de sous sa joue, la pose devant ses lèvres comme pour dire « Chut !» Mais est-ce bien cela qu'elle veut signifier ? Si seulement je pouvais m'approcher d'elle et regarder au fond de ses yeux. Je pourrais voir ce qu'elle pense, quelles émotions la traversent en ce moment. Qu'essaie-t-elle de me communiquer par ce geste? Que cherche-t-elle à me suggérer? Mais le sens se dissout, absorbé par les lourdes ténèbres du cœur de la nuit. Tout à coup, je me sens suffoqué et je ferme les yeux. Une masse d'air me bloque la poitrine, comme si j'avais avalé un nuage de pluie. Je rouvre les yeux au bout de quelques secondes, mais la jeune fille a disparu. Il ne reste plus qu'un fauteuil vide devant le bureau et l'ombre d'un nuage qui passe sur le mur. Je me lève, vais à la fenêtre et regarde le ciel. Et je pense au temps qui ne reviendra pas. Je pense aux rivières, aux marées. Je pense aux forêts et aux sources, à la pluie et aux éclairs, aux rochers, aux ombres. Et tout cela est à l'intérieur de moi. Le lendemain, en début d'après-midi, un policier en uniforme se présente à la bibliothèque. Je suis resté dans ma chambre, aussi j'ignore sa présence. Il va rester une vingtaine de minutes, poser un tas de questions à Oshima, puis repartir. Après quoi, Oshima vient me voir dans la chambre et m'explique ce qui s'est passé. Un policier est venu et a posé des questions sur toi. Il ouvre le frigidaire, prend une bouteille de Perrier, la décapsule et s'en verse un verre. Comment est-il arrivé jusqu'ici? Tu as dû utiliser un téléphone portable, celui de ton père. Je fouille dans mes souvenirs. C'est vrai, j'ai appelé Sakura depuis ce téléphone le jour où je me suis réveillé ensanglanté dans le bois derrière le sanctuaire. Je ne m'en suis servi qu'une fois. Les enquêteurs ont remonté tous les appels enregistrés depuis ce téléphone. Cela leur a permis de découvrir que tu étais venu à Takamatsu. En général, les policiers n'expliquent pas en détail leur méthode d'investigation, mais j'ai réussi à faire parler celui-là, mine de rien. Je peux être très aimable quand je veux. Il m'a dit aussi qu'il n'avait pas pu identifier la personne que tu avais appelée, parce qu'il devait s'agir d'un téléphone à carte prépayée. En tout cas, ils ont su que tu étais venu à Takamatsu, et la police locale a vérifié tous les hôtels. Ils ont trouvé la trace d'un Kafka Tamura, correspondant à ta description, qui a séjourné dans un business hôtel de la ville jusqu'au 28 mai. C'est le jour où ton père a été tué. Je suis soulagé d'apprendre que les enquêteurs n'ont pas retrouvé Sakura. Je lui ai causé suffisamment d'ennuis comme ça. Le gérant de l'hôtel se rappelait que tu avais parlé de notre bibliothèque. Tu t'en souviens? Une employée avait même téléphoné ici pour vérifier que tu y étais. Je hoche la tête. Voilà comment la police a abouti ici. Oshima boit une gorgée de Perrier. J'ai menti, évidemment. Je leur ai dit qu'on ne t'avait pas revu ici après le 28. Que tu étais venu tous les jours jusqu'à cette date, mais après, plus rien. Ça va vous causer des ennuis d'avoir menti à ce policier. Mais si je ne mens pas, c'est toi qui vas en avoir des ennuis. Je ne veux pas vous mettre dans une situation délicate. Oshima rit en plissant les yeux. Je crois que tu ne comprends pas. Tu m'as déjà mis dans une situation délicate. Alors, justement, je ne... Écoute, arrête de dire que tu vas me causer des ennuis, d'accord? C'est déjà fait, je te le répète. Ça ne mènera à rien d'en discuter maintenant. Je hoche la tête en silence. En tout cas, cet inspecteur m'a laissé sa carte et m'a demandé de l'appeler si jamais tu réapparaissais.
Je suis soupçonné de meurtre?
Oshima secoue lentement la tête. Je ne crois pas, mais il compte sur ton témoignage pour parvenir à élucider l'affaire. J'ai suivi l'évolution de l'enquête dans les journaux. Les policiers s'impatientent et ils ne trouvent rien. Pas d'indices, pas d'empreintes, pas de témoins. Tu es leur seule piste. Voilà pourquoi ils veulent à tout prix te retrouver. Ton père était un homme célèbre. La télé, les magazines ont fait beaucoup de bruit autour de son assassinat. La police ne peut pas attendre en se tournant les pouces.
Mais si cet inspecteur découvre que vous lui avez menti, il récusera votre témoignage et je pourrai dire adieu à mon alibi pour le soir du meurtre. Ils penseront que c'est moi le coupable.
Oshima secoue de nouveau la tête. Les policiers japonais ne sont pas si stupides, Kafka Tamura. On ne peut pas dire qu'ils débordent d'imagination, mais ils sont loin d'être incompétents. Les enquêteurs ont déjà vérifié toutes les listes de passagers sur les vols entre le Shikoku et Tokyo. Et puis, tu l'ignores peut-être, mais dans les aéroports, à toutes les portes d'embarquement, il y a des caméras vidéo qui filment les passagers. Ils doivent déjà savoir que tu n'as fait aucun aller-retour Shikoku-Tokyo le jour de l'assassinat. On a accès à des informations très précises dans ce pays, crois-moi. La police sait que ce n'est pas toi le coupable. Si jamais ils le pensaient d'ailleurs, ce n'est pas un inspecteur local qu'ils auraient envoyé, mais un policier du commissariat central de Tokyo. Et dans ce cas-là, ils m'auraient interrogé bien plus sérieusement et j'aurais eu du mal à les berner. Non, tout ce qu'ils veulent pour le moment, c'est entendre ton témoignage.
Je me dis qu'il doit avoir raison.
Enfin, il vaut tout de même mieux que tu ne te montres pas trop pour le moment, ajoute Oshima.
Des policiers patrouillent peut-être dans le secteur et ils doivent ouvrir l'œil en espérant te repérer. Ils ont des photos de toi, des copies de la photo de ta carte de collégien. On ne peut pas dire que tu sois vraiment ressemblant dessus. Tu as l'air, comment dire, très en colère sur cette photo.
C'était le seul cliché que j'avais laissé derrière moi. J'avais essayé d'éviter par tous les moyens d'être pris en photo. Mais pour ma carte de collégien, je n'avais pas eu le choix.
L'inspecteur m'a dit que tu étais un gamin à problème. Il a parlé d'incidents violents entre toi et tes camarades de classe et a dit que tu avais été exclu 3 fois du collège.
Pas 3, 2. Et je n'ai été exclu que provisoirement. Il s'agissait à chaque fois de renvois temporaires.
Après cette explication, j'inspire profondément, souffle tout l'air hors de mes poumons. Puis j'ajoute,
j'ai des moments comme ça.
Des moments où tu ne te contrôles plus?
Je hoche la tête.
Et tu te bagarres?
C'est plus fort que moi. Dans ces moments-là, c'est comme s'il y avait quelqu'un d'autre à l'intérieur de moi. Et avant que je me sois rendu compte de ce qui se passe, j'ai blessé quelqu'un.
Gravement?
Demande Oshima. Je pousse un soupir. Non, jamais de bras ou de dents cassés. Non.
Oshima s'assied sur le lit, croise les jambes et repousse sa mèche de la main. Il porte un pantalon de coton bleu marine, un polo noir et des Adidas blanches.
J'ai l'impression que tu as pas mal de problèmes à surmonter.
Pas mal de problèmes à surmonter? Je lève la tête.
Pas vous, Oshima-san?
Il lève les deux bras en l'air.
Non, moi je n'ai qu'un seul problème à surmonter. Vivre chaque jour dans ce corps, cette enveloppe défectueuse.
Dit comme ça, ça paraît simple.
Mais en fait, c'est compliqué.
De toute façon, ce n'est pas parce que j'y arriverai que j'aurai accompli quelque chose d'important. Je ne m'attends pas vraiment à recevoir une ovation.
Je me mords les lèvres un moment puis demande. Et vous n'avez jamais pensé à sortir de cette enveloppe?
Tu veux dire quitter mon corps?
Je hoche la tête.
Symboliquement ou pour de vrai?
N'importe.
Oshima plaque ses cheveux en arrière.
Je peux voir les rouages de sa pensée se mettre en route à plein régime derrière le front blanc qui vient d'apparaître.
Toi, c'est ce que tu voudrais faire?
Me demande-t-il au lieu de répondre à ma question.
Je prends une inspiration.
À la vérité, Oshima-san, moi non plus je n'aime pas le corps dans lequel je suis enfermé. Je ne l'ai jamais aimé. Je le déteste même. Mon visage, mes mains, mon sang, mes gènes, je hais tout ce que j'ai hérité de mes parents. Je n'aimerais rien tant que m'en échapper, comme je me suis enfui de la maison.
Il me regarde fixement en souriant.
Tu as un corps magnifique, bien musclé. Et peu importe de qui tu as hérité tes traits, tu es plutôt beau.
Enfin, ton visage est peut-être trop particulier pour être beau au sens où on l'entend habituellement.
Mais il est loin d'être laid. Moi, il me plaît.
Et puis, tu es intelligent. Tu es bien équipé aussi. Entre parenthèses, j'aimerais bien en avoir une comme la tienne. D'ici quelque temps, un nombre incalculable de filles va se mettre à te courir après. Je ne comprends pas vraiment ce que tu reproches à cette enveloppe qui me paraît plutôt satisfaisante.
Je rougis et Oshima reprend.
Enfin, bon, peu importe, j'imagine que la question n'est pas là. Pour ma part, c'est sûr, je ne suis pas très satisfait de mon enveloppe physique. C'est compréhensible, non? On peut la regarder de la façon qu'on veut, impossible de la considérer comme un corps normal. Si on juge en termes de commodité, il n'est pas pratique, c'est sûr. Malgré tout, voilà ce que je pense. Si on inverse les choses et que l'on considère notre corps comme l'essence de notre être, et que cette essence soit seulement constituée de notre enveloppe extérieure, peut-être que nos vies deviendront plus faciles à comprendre.
Je regarde à nouveau mes mains. Je pense au sang qui les couvrait l'autre jour. Je me rappelle nettement la sensation visqueuse de ce liquide épais sur mes mains. je réfléchis à l'essence de mon être, à mon enveloppe extérieure, à l'essence de moi-même, enfermée dans cette enveloppe qui est aussi moi. Mais tout ce qui me vient à l'esprit, c'est la sensation de ce sang sur mes mains. Et Mademoiselle Saeki, je me demande ce qu'il en est pour elle. À quel sujet ? Demande Oshima. Est-ce qu'elle a des problèmes à surmonter, à votre avis ?
Tu ferais mieux de lui poser directement la question, dit Oshima.